Bonjour à tous.
À la une ce matin, la France, de nouveau endeuillée par le terrorisme.
Un professeur d'histoire-géographie est mort décapité hier à Conflans-Sainte-Honorine. Dans les Yvelines, son agresseur, un jeune homme de 18 ans, a été abattu par la police. On va y consacrer évidemment une large place dans ce journal. Reportage sur place et réaction. On entendra notamment le grand imam de Bordeaux qui se dit doublement affecté. Covid et vacances de la Toussaint, les grands-parents ne renoncent pas à accueillir leurs petits-enfants. Et puis, les négociations, encore une fois dans l'impasse sur le Brexit. Bras de fer entre Boris Johnson, qui menace d'un no deal, et les 27.
Et après cet attentat hier à Conflans-Sainte-Honorine, nous en parlerons avec nos invités, notamment à 8h20. Deux invités, Hugo Micheron, chercheur à l'université de Princeton, enseignant à Sciences Po, spécialiste du djihadisme. Et puis à 8h30, Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté. Elle était hier soir aux côtés du chef de l'État à Conflans-Sainte-Honorine.
France Inter. Conflans-Sainte-Honorine qui se réveille donc sous le choc, médusé ce matin après la mort de ce professeur d'histoire-géographie décapité près de son collège. L'enseignant avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Son assaillant a été abattu par les policiers juste après avoir posté une photo de sa victime sur les réseaux sociaux. Dans la commune, Rémi Brancato, les habitants sont assommés, traumatisés. Ils ne comprennent pas comment un tel acte a pu se produire.
Près du collège, des anciens élèves lycéens aujourd'hui sont réunis. Ils confient leur effroi, téléphone à la main, sur cette photo insoutenable d'un cadavre décapité diffusé sur Internet. Ils ont reconnu leur ancien prof.
On voit sa tête ensanglantée, ça me choque.
C'est quelque chose qu'on n'est pas censé se voir, je pense.
Les habitants de ce quartier pavillonnaire se disent effrayés.
Le policier m'a dit de rentrer très vite chez moi.
Thiago, en 6e, qui sortait du collège à 17h, habite tout près avec ses parents.
C'est juste terrifiant de se dire que ça s'est passé à 50 mètres de chez nous et que mon fils, il était dans la rue à la même heure, au même moment.
Parmi les parents d'élèves, ce professeur d'histoire géo avait suscité la polémique. Il venait de montrer des caricatures du prophète Mahomet en cours à une classe de 4e et proposer aux musulmans de quitter la salle. Le père d'une élève avait dénoncé son comportement.
Pour moi, il dénonce sans savoir.
Nordine, père d'un élève de cette classe, ne comprend pas.
Il n'a pas fait ça pour manquer de respect aux petits ou quoi que ce soit. Mon fils, il me dit, il était super gentil ce monsieur.
Martial, au lycée aujourd'hui, avait suivi ce cours il y a 2 ans sans problème à l'époque.
Je comprenais pas pourquoi on lui demandait de sortir. Moi, je suis resté, moi. Cette caricature, c'était dans son programme de 4e, en fait. Il disait c'était liberté d'expression de la presse, comme Charlie Hebdo et tout. Il aimait beaucoup ce qu'il faisait. Il était gentil, hein.
Alors pour lui, comme pour les autres habitants, c'est l'incompréhension face à une telle barbarie.
Barbarie dénoncée au plus haut sommet de l'État, un professeur assassiné parce qu'il apprenait à ses élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. S'est exprimé Emmanuel Macron hier soir. Le chef de l'État appelle la nation à faire bloc. Ulcéré aussi le grand imam de la mosquée de Bordeaux, Tarek Oubrou, qui se dit doublement touché.
Je suis abattu parce que c'est un acte inqualifiable et qui est perpétré au nom d'une religion qui n'a rien à voir avec ces actes ignobles. Rien ne justifie de tuer un innocent pour ses paroles, ses convictions. D'autant plus, il représente l'école, l'enseignement, il représente la République. Ça n'honore pas ni la religion ni Mahomet. Je suis doublement affecté en tant que citoyen, en tant que musulman.
Le grand imam de la mosquée de Bordeaux, Tarek Oubrou.
Onde de choc, évidemment aussi dans le monde enseignant.
Et oui, passé l'horreur, l'effroi et la sidération, les syndicats de professeurs et de parents d'élèves demandent maintenant à ce que justice soit faite. Ils seront reçus ce matin par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Ce sera à 9h. La classe politique qui a réagi très vite hier soir pour dénoncer cet attentat, Laurence Perron.
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, s'est exprimé le premier. Ce soir, c'est la République qui est attaquée. Notre unité, notre fermeté sont les seules réponses face à la monstruosité du terrorisme islamiste. Nous ferons face. Stanislas Guérini, le patron du parti présidentiel, parle d'horreur absolue, de barbarie. À gauche, condamnation unanime. Jean-Luc Mélenchon parle d'un ignoble crime à Conflans. En fait, l'assassin se prend pour le Dieu dont il se réclame. Il salit sa religion et il nous inflige à tous l'enfer de devoir vivre avec les meurtriers de son espèce. À droite, on dénonce en creux les manquements de l'exécutif. Christian Jacob, le président des LR, notre pays ripostera-t-il avec fermeté et détermination? Les grands discours doivent céder la place aux grandes décisions contre le terrorisme islamiste. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, écrit « L'islamisme nous mène une guerre, c'est par la force que nous devons le chasser de notre pays ». Le président de la République a promis hier soir des actes. L'obscurantisme ne passera pas, a-t-il dit.
Laurence Perron du service politique de France Inter. L'enquête, elle suit son cours. Quatre personnes, dont un mineur, ont été placées en garde à vue. Des perquisitions ont eu lieu hier soir. Le parquet antiterroriste a été saisi. Toutes ces informations, tout ce qu'on sait sur cet attentat, c'est à retrouver sur notre site franceinter.fr.
Et puis débat avec nos invités ce matin, notamment à partir de 7h50 ce matin. Hier soir, eh bien, on a trinqué à notre dernier verre.
Oui, ultime soirée avant le couvre-feu, parce que c'est aussi ça l'actualité ce matin. Ce couvre-feu qui est entré en vigueur cette nuit à minuit. À partir de ce soir, interdiction de circuler entre 21h et 6h du matin, sauf bonne raison. Ça vaut pour 8 métropoles et toute l'Île-de-France, soit un tiers des Français concernés. 12 000 policiers seront déployés pour faire respecter les règles. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €. Couvre-feu qui débute en même temps que les vacances de la Toussaint. Le virus, lui, ne semble pas prendre de congé. 25 000 cas positifs en 24 heures enregistrés hier. Le taux de positivité, lui, grimpe, 12,9% désormais. Et celui des entrées en réanimation aussi, près de 1 800 en tout. Pour autant, pas question pour cette mamie bretonne de ne pas recevoir son petit-fils pour les vacances, Nicolas Olivier.
Marie-Claude s'apprête à aller chercher à la gare son petit-fils de 9 ans qu'elle accueille pour une semaine, avec une petite pointe d'appréhension.
On y pense, mais on se dit après tout, on a toujours dit que ce que les petits de 9 ans, ça craignait pas. Par contre, les parents, on leur a fait comprendre qu'on souhaitait pas trop les voir, donc ils viennent pas. Les parents, ils sont sur Paris, donc on sait jamais.
Une précaution plus facile à prendre à la Toussaint qu'aux vacances de Noël, où la famille devrait se retrouver. En tout cas, pas question pour Marie-Claude de renoncer à voir son petit-fils comme pendant le confinement.
Renoncer, là, non, ça ment pas. Comme la dernière fois, 5 mois sans le voir, c'est à cet âge-là, ça change beaucoup. C'est un petit peu difficile, je trouve, d'être 5 mois sans les voir.
Quant à la distanciation physique, cette mamie affectueuse n'y arrive pas.
La lecture du soir, très proche, assis sur le lit, et le bisou du soir, j'ai pas renoncé, non.
Mais c'est sûr que c'est difficile de renoncer au bisou du soir, on la comprend, Marie-Claude, surtout qu'il semble y avoir une lueur d'espoir. Au bout du tunnel, les États-Unis pourraient bientôt avoir non pas un mais deux vaccins contre le Covid-19. Les sociétés Pfizer et Moderna prévoient de demander l'autorisation de commercialisation de leur vaccin d'ici fin novembre, soit 9 mois après le début de la pandémie aux États-Unis.
C'était une réunion houleuse hier à Bruxelles entre Londres et les 27.
Et oui, c'était le Brexit qui était au menu à moins de 3 mois du divorce économique. Les négociations sur le futur accord commercial n'ont pas beaucoup avancé. Les Britanniques brandissent même la menace d'une sortie sans accord. Les 27, eux, restent, Angélique Bouin, droit dans leurs bottes.
Rester ferme, calme et ne jamais fermer la porte à la négociation. Les 27 ne varient pas. Mais ce n'est pas nous qui avons demandé le divorce, rappelle-t-il régulièrement pour eux. C'est donc à Londres de faire bouger les lignes. Les discussions achoppent sur tout, pas seulement la pêche, a rappelé le président Macron. Pas question, par exemple, qu'il garde un pied dans le marché unique, sans droit de douane ni quota, s'il n'applique pas les règles européennes. Mais en face, la posture est idéologique, indique un diplomate. Il quitte justement l'Union pour se débarrasser de ses contraintes. Visiblement surpris par la fermeté affichée par Bruxelles, le Premier ministre britannique Boris Johnson a clairement menacé hier de mettre fin aux discussions et Michel Barnier n'est plus le bienvenu lundi à Londres, indique un porte-parole. C'est inédit. Le négociateur européen a tout de même convenu d'échanger avec son homologue britannique, tempère un porte-parole de la Commission. Le fil du dialogue n'est donc pas rompu, mais l'on ne veut pas d'un accord à tout prix, a tout de même tweeté sa présidente Ursula von der Leyen. Pas question pour Bruxelles de porter la responsabilité d'un éventuel échec. À Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Et puis encore raté, la Challenge Cup, la petite coupe d'Europe de rugby, échappe une nouvelle fois aux Toulonnais, battus hier par les Bristol Bears. 32-19, 5 ans que le club varois n'a pas remporté une compétition nationale ou internationale. Le Racing 92, lui, peut rêver en revanche d'un premier sacre. Finale de la Coupe d'Europe, la grande, cette fois contre les Britanniques d'Exeter. Le coup d'envoi, c'est à 17h45.
Et on suivra ça, évidemment, sur France Inter pour les comptes rendus. C'était le journal de Soisigbourg.